Frères et sœurs, vous vous en souvenez, dimanche dernier, nous avions une parabole de la vigne, mais nous avions aussi ce passage de la lettre aux Philippiens, saint Paul aux Philippiens, qui est cet hymne chantant l'anéantissement du Christ. Le Christ, Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà, dimanche dernier, déjà l'Église nous annonçait ce mystère que nous devons cesser de proclamer, qui est le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ, le Fils de Dieu. Et alors aujourd'hui, eh bien nous avons une parabole donné par Jésus lui-même, bien sûr, sur ce mystère. C'est même assez émouvant de se dire, cette parabole, elle est dans la bouche de Jésus, et elle est pourtant comme une annonce de sa passion, c'est-à-dire Jésus ne va pas se contenter juste de dire à ses apôtres, par trois fois le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes et crucifié. Mais le troisième jour, il ressuscitera. Non, non, Jésus, aujourd'hui, semble raconter une parabole qui illustre cela. Et il nous faut entendre ça, hein. Il nous faut entendre cette lamentation. Le maître envoya son fils en se disant, ils respecteront mon fils. Qui dit ça? C'est le fils éternel du Père. Ils respecteront mon fils. Mais en face, voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons l'héritage. Qui dit ça? C'est celui qui sera mis à mort. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Qui dit ça? C'est celui qui sera condamné, traîné avec sa croix hors des murailles de Jérusalem pour être crucifié sur le Golgotha. Jésus parle de lui, hein. Jésus parle de ce qui va lui arriver et Matthieu ne nous traduit pas ça hein, dans la parabole, mais on imagine hein, que la gorge de Jésus se serre en évoquant cela. Donc, Jésus nous donne cette parabole qui est une parabole sur le mystère de la passion, de la mort de Jésus, mais aussi une parabole sur le mystère de la résurrection. Car en fait, quand Jésus commence en disant « un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne », tous ceux qui l'écoutent ont à l'esprit ce qu'on appelle le chant de la vigne dans le livre du prophète Isaïe, ce que nous avons entendu comme première lecture. Tout le monde connaît par cœur ce chant, cette sorte de complainte aussi. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour la soigner? Il en attendait de beaux raisins, mais en en donna de mauvais. Que faire? Que ferais-je de ma vigne? Tout le monde, tous les auditeurs de Jésus ont ça en tête. Alors la parabole de Jésus, ce n'est pas un copier-coller, bien sûr, de ce chant d'Isaïe, mais c'est très proche quand même. Alors, bien sûr, il y a des petites différences. Isaïe, il chante la vigne qui ne donne pas de bons fruits. Jésus, dans sa parabole, parle de vignerons qui refusent de donner le fruit. Ce n'est pas tout à fait identique, mais quand même. Alors à la fin de la parabole, que nous n'avons pas besoin d'expliquer, hein, parce qu'on comprend très bien ce qui se passe, on comprend très bien la jalousie, le refus, etc. À la fin, Jésus interroge. Eh bien alors, que va-t-il se passer? Soyez, on a l'impression que Jésus dit cela, hein, un peu comme dans Isaïe, soyez juge entre ma vigne et moi, entre les vignerons et moi. Et Jésus attend une réponse. Alors la réponse, on la lui donne. De concert, ces misérables, le maître les fera périr. Et il donnera la vigne à d'autres qui, eux, feront leur travail. C'est humain, hein, c'est logique même. Vu le comportement des vignerons, ils méritent un jugement. C'était aussi, d'une certaine manière, la conclusion du chant d'Isaïe. Ça, c'est la logique presque humaine, ou peut-être, parce qu'il faut quand même parler d'Isaïe, la logique de l'Ancien Testament. Eh bien, Jésus donne une autre conclusion. Plutôt que de citer la conclusion d'Isaïe, je vais laisser ma vigne, l'abandonner aux bêtes féroces, en faire une terre sèche, aride, etc. Jésus lui donne une autre conclusion. Une conclusion qu'on n'avait pas remarquée. Parce qu'il dit, hein, n'avez-vous pas lu les Écritures? D'ailleurs, N'avez-vous pas lu les Écritures ? Pour qui connaît un peu l'Évangile ? Ça résonne comme une autre parole de Jésus. Les disciples d'Emmaüs, n'avez-vous pas lu les Écritures ? Ne fallait-il pas que le Fils de l'homme... Voilà, n'avez-vous pas lu les Écritures ? Et Jésus cite un psaume, le psaume 118. Qu'est-ce que c'est que le psaume 118 ? Le psaume 118, c'est un psaume de résurrection. C'est un psaume de Pâques. Ça commence même par Alléluia. Et voilà, c'est au cœur de ce psaume qu'on trouve cette phrase, « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. » Et tout de suite après, le verset suivant, c'est « Voici le jour que fit le Seigneur, jour de fête et de joie. » C'est ce qu'on chante pendant le temps pascal, tous les dimanches. « Voici le jour que fit le Seigneur, jour de fête et de joie. » Voilà, la conclusion de Jésus, lui, l'explication que Jésus donne de sa parabole, c'est pas « Le châtiment de Dieu va s'abattre. » C'est la résurrection. Et les annonces de la passion, dans l'Évangile, c'est toujours ça. Ça n'est jamais juste le Fils de l'homme va être livré, crucifié et va mourir, va être tué. Non, c'est le troisième jour, il ressuscitera. Ça ne veut pas dire que ça gomme le mystère de la passion. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, je vous ai dit. Jésus, racontant cette parabole, doit avoir le cœur qui se serre, parce que c'est ce qu'il va vivre. Quand il va paraître devant le Sanhédrin, devant Pilate, c'est pas pour rien, hein. C'est pas pour faire semblant, mais le troisième jour, il ressuscitera. Nous avons deux manières de comprendre cette parabole. Nous avons d'ailleurs deux manières de comprendre l'enseignement du Christ. Ou bien nous en restons à l'Ancien Testament, la logique adaptée à notre intelligence, notre petite intelligence, le mal, le châtiment. Ou bien nous passons à la logique de Dieu. Et la logique de Dieu, c'est la victoire sur le mal dans son Fils. Si nous sommes là tous les dimanches, frères et sœurs, si nous venons à la messe tous les dimanches, ce n'est pas pour satisfaire une obligation, quelle qu'elle soit, pour se donner bonne conscience. Si nous sommes là tous les dimanches, c'est parce que Jésus est ressuscité. C'est parce que, justement, la clé de compréhension de notre histoire, de l'histoire de l'humanité, c'est la résurrection du Christ. Tout s'explique par là. Le mal n'a pas le dernier mot. Alors on peut relire du coup la parabole, on peut comprendre l'insistance du maître qui envoie serviteur après serviteur, plus nombreux, plus forts, je ne sais pas, jusqu'à dire « je vais envoyer mon fils ». Voilà, on entend Jésus qui dit aux disciples d'Emmaüs, « ne fallait-il pas que le Christ passe par la mort pour ressusciter ?» On entend Dieu qui dit « ne fallait-il pas que mon amour aille jusque-là pour vous toucher ?» C'est ça le message de la parabole. L'amour de Dieu est allé jusque-là. Pas simplement d'envoyer des prophètes, des voix plus ou moins audibles, d'envoyer son Fils, sachant très bien que le refus de Dieu, que cet esprit d'indépendance qui nous habite, là, qui voudrait nous faire croire qu'on va se débrouiller tout seul, qu'on n'a pas besoin de s'en référer à celui qui nous a créés par amour, sachant très bien que cela mettait en danger ce fils. Sachant même très bien qu'en fait, ça se terminerait comme ça. Ton fils sur la croix. Mais Dieu n'a pas peur. Dieu n'a pas peur parce que l'amour va jusqu'au bout. Le véritable amour va jusqu'au bout. Et donc, dans cette parabole, ce que nous devons entendre, c'est jusqu'où est allé l'amour de Dieu pour nous. Dieu ne sait rien épargner pour nous signifier, pour nous manifester son amour. Alors on se demande, du coup, on a presque envie de dire à Jésus, c'est plutôt ça la question qu'il faut poser, c'est pas « alors qu'est-ce que vous en pensez ?» C'est plutôt « mais pourquoi résister encore ? Pourquoi faut-il que nous nous opposions encore à Dieu ? Pourquoi alors que l'amour s'est montré de la manière la plus parfaite, la plus totale qu'il soit, pourquoi trouvons-nous encore des arguments pour résister ? Pour être indépendant dans notre rapport à Dieu ? Pourquoi faut-il que le mal trouve encore des disciples ? Mystère. Peut-être que le vrai mystère, il est là. C'est pas juste le mystère de l'amour de Dieu, c'est pourquoi le mal en est-il encore là quand Dieu a tout fait ? Voilà, entrons dans la logique de Dieu. Entrons dans cette victoire de Dieu qui n'est pas une victoire qui efface le mal, mais qui est une victoire qui nous montre que Dieu, malgré le mal, est plus fort. Et pour entrer dans cette logique de Dieu, il faut que chacun d'entre nous vive cette victoire. Encore une fois, si nous sommes là tous les dimanches, c'est parce que nous voulons participer au Christ ressuscité, à la résurrection de Jésus. Nous célébrons sa mort, sa passion, sa mort, sa résurrection, et nous le recevons, lui, vivant, dans la communion. Et alors, est-ce que nous allons encore trouver des arguments pour nous tenir séparés de Dieu ? Cette semaine, nous avons fêté, tout à l'heure je parlais de Saint Bruno, mais cette semaine, nous avons fêté Saint François d'Assise. Saint François d'Assise, alors on est là à chanter, oh le beau Saint François d'Assise qui loue la création, les petits oiseaux et tout ça. Enfin, Saint François d'Assise, frères et sœurs, c'est celui qui aimait tellement Jésus, qui se mettait tellement devant la croix du Christ qu'il en a reçu les stigmates, qu'il a été marqué des plaies du Christ sur la croix. Eh bien, Saint François d'Assise, il disait, enfin, on lui prête cette phrase, « L'amour n'est pas aimé ». Voilà. La contemplation de l'amour de Dieu nous montre qu'en fait, nous n'avons pas encore compris assez jusqu'où Dieu est allé pour nous. L'amour n'est pas aimé. Demandons, frères et sœurs, de recevoir ce don que Dieu nous fait de son amour en son Fils, et en adhérant, pas une adhésion pour en signant un papier, hein, en adhérant de tout notre cœur, en communiant à cet amour. Demandons au Seigneur d'être sauvé. Il y a une petite chose aussi dans l'Évangile qui nous fait comprendre ça. La vigne du Seigneur, c'est son peuple, on l'a chanté. C'est le peuple d'Israël. Tout le monde a ça à l'esprit, quoi. C'est l'Isaïe. Et à la fin, Jésus dit, le royaume de Dieu. C'est plus la vigne du Seigneur, c'est plus le peuple d'Israël, c'est le royaume de Dieu. Voilà. Réfléchissons, méditons. Sommes-nous encore sous le régime du peuple d'Israël, ou sommes-nous vraiment, par notre communion au Christ, membres du royaume de Dieu, artisans du royaume de Dieu? C'est bien plus grand. Et c'est là où la résurrection est le signe du triomphe de Dieu. Amen.